Chez Rénoval, la TVA est offerte. Conditions sur rénoval.com. Ma pergola, ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
RTL Matin. L'œil de Philippe Cavrivière.
Notre Gabriel Attal propose le retour de l'internat, le retour de l'apprentissage de la Marseillaise. Notre Gabriel Attal, c'est le cerveau d'un grand-père dans le corps d'un petit-fils. Gabriel était arrivé au gouvernement, c'était un petit chiot Golden Retriever, il était tout mignon. Et aujourd'hui, c'est le sergent Hartman dans Full Metal Jacket.
Espèce de sac à pote.
Oui, c'est bon, on a compris, Gabriel. Merci, Gabriel.
Les chroniques de Philippe Cavrivière, c'est chaque matin à 7h55 sur RTL et aussi à 8h30.
RTL, il est exactement 13h.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Les auditeurs ont la parole, on parle de ces 11 millions de travailleurs invisibles. Greg a composé le 3210. Bonjour Greg.
Bonjour.
Vous estimez que vous faites partie, vous, des invisibles ?
Bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis éboueur.
Et ça veut dire quoi, invisible pour vous ? En quoi ça résonne en vous ?
Alors pour moi, invisible, c'est les métiers qui ne sont pas plébiscités, c'est les métiers qui sont même évités, on va dire. Voilà. Et c'est difficile. C'est difficile, ça a été surtout difficile après le Covid.
Restez avec nous, Greg. On est au cœur du sujet. Restez là, s'il vous plaît. Tout de suite à 13h01, c'est le rappel des titres avec Céline Landreau.
Gérard Depardieu en garde à vue. L'acteur est entendu depuis ce matin dans les locaux de la police judiciaire parisienne. Il doit s'expliquer après deux plaintes récentes pour agression sexuelle, des faits qui, selon les femmes qui l'accusent, ont eu lieu sur des tournages en 2014 et 2021. Gérard Depardieu, par ailleurs déjà mis en examen pour viol, a toujours réfuté les accusations qu'il vise. L'adolescent soupçonné d'avoir tué Mathis, ce jeune de 15 ans à Châteauroux, samedi, est toujours en garde à vue. Ce suspect, afghan résident en France, devrait être déféré dans l'après-midi, tout comme sa mère, soupçonnée d'être elle aussi impliquée dans le drame. Au même moment, Gabriel Attal débute lui ses consultations des groupes politiques pour développer ses propositions destinées à endiguer la violence d'une partie de la jeunesse. Et puis l'espoir d'une trêve à Gaza, le Hamas doit répondre aujourd'hui à une proposition de cessez-le-feu associée à une libération d'otages. Et cela lors d'une réunion tripartite au Caire, en Égypte. La météo à présent pour cet après-midi avec vous, Louis Baudin. Ça reste bien arrosé par endroits.
Par endroits, oui, c'est vrai. Pas partout. Il y a des endroits où, au contraire, on a une petite accalmie. Alors, les pluies en ce moment, elles sont sur le Languedoc-Roussillon, une grande partie de l'Occitanie, le Massif central. Ces pluies sont en train de quitter un peu la vallée du Rhône. C'est une bonne nouvelle. À Lyon également, c'est un petit peu en train de se calmer. Donc, normalement, cet après-midi, ça sera un petit peu plus sec, comme ça sera le cas d'ailleurs à l'est du Rhône ou encore sur la Corse. Et puis, ces pluies, elles vont remonter vers la Bourgogne, vers une partie de la région centre ou encore la Lorraine. Dans les autres région, donc de l'Atlantique aux côtes de la Manche, de la vallée de la Loire à l'Île-de-France. Là, ça devrait rester plus sec, avec même par moments de très très belles éclaircies. Les températures en profitent pour remonter, sauf sous les pluies. Donc on sera entre 17 et 22 degrés dans la plupart des régions. Un petit peu moins, donc, de l'Occitanie au Massif central. Là, ça sera 13 à 17 degrés.
Merci beaucoup, Louis.
Merci Louis Baudin. Merci Céline. À demain midi sur RTL.
Éric Brunet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Éric, bonjour à tous.
Pourquoi allons-nous parler aujourd'hui dans Les Auditeurs ont la parole de ces 11 millions de travailleurs invisibles ?
Alors déjà, on va un petit peu les redéfinir, ces invisibles. On les appelait les essentiels, les premiers de corvée pendant la crise du Covid. Ce sont les caissières de supermarchés, les infirmières, les aides-soignantes, les institutrices, les livreurs à vélo, les VTC, les caristes dans les entrepôts. Ils sont 11 millions dans la population française, 11 sur 30 millions de travailleurs en France. Ils représentent un salarié sur trois, souvent mal payé, entre 900 et 2000 euros. C'est l'un des problèmes, mais loin d'être le seul. Je pense que nos auditeurs vont en témoigner tout de suite au 3210.
Greg est avec nous au 3210. Je salue, en attendant de vous repasser le micro, Greg, Patrick Lévivette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre invité, vous êtes justement l'auteur de ce rapport sur les invisibles. C'est la fondation Travailler Autrement pour laquelle vous œuvrez, qui a mené ce long travail sur lequel on va revenir, parce qu'il y a vraiment des données très importantes qui ont été qui sont sorties de ce rapport, qui permettent de mieux comprendre qui sont ces travailleurs invisibles. 11 millions de Français. Greg, dans Invisible, il y a le côté, Greg, travailleur fantôme, un peu, vous qui êtes éboueur, qu'on voit pas. Ça vous parle, ça ?
Bien sûr, ça me parle totalement, comme les 11 millions d'autres.
On vous voit pas, vous avez le sentiment de ne pas être perçu, compris, entendu par la société française?
Ben, en fait, quand on a entendu ce qui avait été dit pendant le Covid, en ce qui concerne la reconnaissance, les applaudissements à 20h, et qu'après, par exemple, après le Covid, et ben, on se rend compte que, par exemple, ben, tout simplement, ben, moi, je vais prendre mon cas, j'étais à la recherche d'un logement, ben, ça a été très, 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 très compliqué. Il a fallu négocier avec le propriétaire directement parce que mon salaire ne me permettait pas de me loger. Et pourtant, je gagne environ 1900 euros et j'ai galéré. J'ai vraiment galéré pour trouver un logement. Et je trouve que c'est pas normal.
Patrick Lévivette, pourquoi vous vous êtes attaqué à ces invisibles dans votre fondation Travailler Autrement? Pourquoi avoir travaillé? Quels sont les principaux enseignements que vous en sortez?
C'est la deuxième. On en avait fait une il y a 2 ans. On a voulu continuer ce travail. Oui, c'est une étude de cette nature. Pourquoi? Parce que un Français sur 3 qui travaille, qui cumule les contraintes de vie, c'est un tiers de Français qui ne sont pas en capacité d'apprécier la société dans laquelle on vit, qui sont en colère, qui ne trouvent pas leur place, et donc évidemment qu'il y a une difficulté majeure à vivre au quotidien. C'est pour ça qu'on l'a fait, c'est 11 millions de personnes qui, en fait, Greg en est le très bon exemple. Il est Uber, il se lève le matin sans doute très très tôt, vous avez votre grand-mère ou votre mère qui est dans un EHPAD et qui va être accompagnée par une aide-soignante et qui a des trous dans son agenda parce qu'en fait elle n'est pas payée tout au long de la journée, donc elle se lève très tôt le matin et rentre chez elle très tard le soir. Hier soir, peut-être Eric, vous étiez avez fait venir une pizza, et ben c'est un livreur qui vous l'a amené et lui aussi il est dans des conditions de vie extrêmement compliqué parce qu'il habite très loin de son domicile. Et enfin, si je devais prendre un autre exemple, une femme à charge d'enfant, on en parlera sans doute tout à l'heure, et qui se retrouve à devoir prendre la voiture qui coûte si cher en ce moment et qui donc cumule des contraintes de vie au quotidien.
Greg, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette colère? Déjà, est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes frustré? Votre rapport, dit Patrick Lévivette, que 2/3 de ces travailleurs invisibles, ces 11 millions de travailleurs, 2/3 sont en horaire décalé quand même, pour parfaire le tableau. Greg?
Oui.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette colère exprimée?
Bien sûr. Et si vous voulez, la colère a laissé place à l'indignation, on est résigné, parce que c'est vraiment une injustice flagrante. Voilà.
Le Covid vous avait redonné de la fierté, de la considération. Oui. Je me souviens qu'on applaudissait à 20h les aides-soignantes, mais vous sentiez plus considéré en ces temps difficiles?
Bah, ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir d'être applaudi à 20h. Ça faisait plaisir qu'on nous dise merci pour ce qu'on fait. Mais quand on a vu qu'il fallait quotidiennement, faut faire des choix parce que les salaires sont justes et malgré ça, il y a de plus en plus de choses à payer. Moi, j'ai des enfants, c'est des choix quotidiens, constants. Et à un moment, je peux même pas me permettre d'être en colère parce que je suis fatigué. Voilà.
Restez avec nous, Greg. On a beaucoup d'appels au 3210 pour commencer cette émission. Nathalie nous appelle également. Bonjour, Nathalie.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans quel endroit en France?
Je suis en Gironde.
En Gironde. Que faites-vous dans la vie?
Je suis auxiliaire de vie, accessoirement, quand j'arrive à trouver des contrats, mais surtout aide ménagère.
Aide ménagère, auxiliaire de vie. Vous semblez dans cette cible? Vous situez dans cette cible des invisibles?
Bien sûr, puisque je trouve quand même que, par rapport à l'expérience que j'ai du métier, c'est difficile, tous les jours d'aller faire le ménage chez les gens, d'arriver dans des situations où on vous donne pas la possibilité de travailler dans de bonnes conditions, quand vous avez pas votre matériel, que vous avez plus de produits, qu'il faut limite aller en acheter. Ça arrive régulièrement chez certains clients. D'autres fois, on est très bien considéré et parfois pas. Et puis, il y a les situations où, franchement, quand vous demandez 1 euro d'augmentation parce que ça fait 4 ans que vous bossez chez le même client, en fait, on vous dit non. Voilà. Et vous êtes à 10,50 euros.
de rester avec nous, Nathalie. Les invisibles, selon votre rapport, Patrick Lévivette, le rapport de la Fondation Travailler Autrement, gagnent entre 900 et 2000 euros par mois. Et les invisibles, c'est 11 millions de travailleurs français, travailleuses, gagnent 32% de moins que la moyenne française. Est-ce que vous êtes dans cette population des invisibles, postiers, manutentionnaires, institutrices, VTC, aides-soignants, éboueurs, aides-ménagères? Si oui, appelez-nous au 3210, à tout de suite.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes la minute.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie, RTL.
Pendant les Oscars Odaise, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits. Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Conditions sur le site. Oscaro Odaise signifie les jours Oscaro.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Dans un instant, nous verrons comment apparaissent les taches brunes sur le visage, comment les corriger et les prévenir.
Laurent, je suis heureux dans la vie.
Oh là là.
J'ai perdu une dent. Ah. Je commande des matchs sans images. On me prend pour un con en grosse tête.
Tout va très bien.
Ah, c'est pas la
Il y a pas
de
grosse tête, hein.
François Berléand, sauvez-moi de là.
Bah, excusez-moi, Laurent, vous êtes un peu responsable.
Oh, quel recrutement vous avez fait ce jour-là.
Les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h. Et retrouvez tout à l'heure l'émission spéciale des grosses têtes depuis Montluçon. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Les invisibles gagnent entre 900 et 2000 euros par mois. L'inflation les a frappés de plein fouet. Ils gagnent 32% de moins que la moyenne française. Ils dépensent plus d'argent en transport que les autres Français, voitures obligatoires. Ils habitent loin de leur travail et souvent dans des passoires thermiques qui coûtent plus cher. Ce sont des métiers physiques. La plupart sont debout toute la journée. Quasiment 100% des invisibles occupent des postes qui ne sont pas télétravaillables. Des métiers pénibles. Les deux tiers sont en horaire décalé. 75% d'entre eux, et surtout d'entre elles, sont épuisés et ne s'imaginent pas tenir jusqu'à la retraite.
Voilà, c'est Martial You du service économie d'RTL que vous venez d'entendre et qui fait le portrait de cet invisible type. Nathalie, vous vous êtes reconnue dans ce portrait, Nathalie ?
Absolument, oui, tout à fait.
Oui, il y a ce côté, effectivement, vous avez été loué par la société française au moment du Covid, hein, tous ceux qui continuaient à sortir, à travailler, à livrer, tous ceux qui continuaient à nettoyer, tous ceux qui continuaient à soigner, voilà, on les applaudissait à 20h, vous vous souvenez ?
Ah oui, mon Dieu, oui. Et oui. Moi, j'ai dû faire attention parce que mon mari a une pathologie qui est sensible à ce genre de choses. Hein. Tout ce qui est Covid, faut surtout pas qu'il l'attrape. Hein. J'ai choisi de patienter une semaine et je me le suis fait reprocher, en fait, pour prendre une décision, hein, pour continuer à aller travailler ou pas. Et je me le suis fait reprocher.
Par votre employeur.
Oui, bien sûr, j'en ai plusieurs, oui. Ouais. Et qui m'ont dit, mais on comprend pas pourquoi vous venez pas. J'en ai d'autres qui m'ont carrément interdit l'accès. Et qui ont refusé de me verser un salaire. Vous voyez, ce genre de choses. C'est quand même assez difficile à comprendre, quoi. Vous êtes à leur service, vous faites tout ce qu'il faut, et puis en définitive, on vous considère pas, quoi. Vous n'existez pas.
Patrick Lévivette, dans votre travail, votre étude sur de la Fondation Travailler Autrement sur les invisibles, j'ai regardé dans tous ces métiers qui sont très différents, parce qu'entre une aide ménagère, je sais pas, une infirmière, une institutrice, un VTC, un postier, il y a des fonctionnaires, mais il y a des points communs qui sont absolument incroyables. On a parlé déjà, alors il y a plusieurs choses, hein, on va revenir sur... il y a le revenu déjà, hein, il y a le revenu, vous avez dit entre 900 et 2000 euros par mois, ils gagnent ces invisibles, ces populations-là en général, en moyenne, 30% de moins que la moyenne des Français. Premier point. On en a un peu parlé et ça tout le monde le comprend. Mais il y a deux autres éléments sur lesquels je voudrais vous entendre, il y a le logement et également le transport.
Oui, parce que en fait, on a toujours eu dans notre société des hommes et des femmes qui gagnaient modestement leur vie, mais qui étaient fiers. où la société rendait fier leur métier parce qu'elle reconnaissait cette notion de reconnaissance. On l'entend, on vient de l'entendre à l'instant chez Nathalie ou chez Greg, cette question de reconnaissance est essentielle. Mais ce qui est grévé depuis 30 ans, 30, 40 ans, et qu'on n'a pas vu venir, c'est le changement profond dans son rapport à son travail. Un, la distance est devenue, a été multipliée par 3. On est passé de 15 minutes pour aller à son travail à 45 minutes pour aller à son travail. Vous imaginez, Eric, la difficulté que ça représente. 45 minutes pour aller, 45 minutes pour revenir. Donc c'est la distance est devenue essentielle. Pourquoi elle est devenue aussi importante ? Elle est aussi importante parce que le logement est devenu impossible dans le centre des villes. Mmh. Et donc, on, petit à petit, moins on gagne, plus on est en distance, plus on est dans les territoires. Troisième fracture, tout à fait centrale, suite à la désindustrialisation, c'est quand vous êtes une petite ville ou dans un village, vous êtes obligé, comme le disait Marcel Young, d'avoir une voiture. Et alors, dès qu'il y a une augmentation de l'essence, dès que vous avez la voiture, une roue qui pète, vous avez évidemment
une répercussion
immédiate sur ce
que vous faites.
Et donc, la tension que vous avez au quotidien pour vivre au quotidien est devenue insupportable.
Maryse a fait le 32-10. Greg et Nathalie restent avec nous, bien sûr. Vous intervenez quand vous voulez, hein, Greg et Nathalie. Les micros sont ouverts. Je vais saluer Maryse. Bonjour Maryse.
Bonjour.
Qui est Maryse ?
Bonjour à tous. Alors, Maryse est gérante d'une société de services à la personne. Nous sommes basés dans les Yvelines, dans le sud Yvelines, donc en milieu rural.
Oui.
Et donc, j'embauche effectivement des auxiliaires de vie, des aides ménagères. Mmh. Et effectivement, ce terme d'invisible me fait hérisser le poil, parce qu'on est loin d'être invisible. Mes équipes sont loin d'être invisibles. Et c'est un métier noble, en fait, d'être auxiliaire de vie. Même aide ménagère, comme disait Nathalie aussi, hein, ça demande beaucoup de rigueur, etc. Et je dirais même, ce sont des métiers primordiaux en fait, pour le bien vieillir. La population est vieillissante, les gens veulent rester chez eux au domicile. Et si nos métiers n'existaient pas, et ben on se demande comment ça se passe.
Vous les rebaptiseriez comment, les invisibles? Alors vous, Maryse, vous les appelleriez comment?
Alors, j'avoue que j'ai pas réfléchi à ça, mais sûrement pas invisible. Mmh. On a besoin, en fait, on est
invisible. Je vous écoute, on a besoin d'eux, les indispensables.
Les indispensables, oui. Nous, on a créé justement après le Covid un collectif qui s'appelle le collectif des aides à domicile, et on a mis un logo en place qui s'appelle nous sommes une profession essentielle.
Oui, ou les essentiels. Oui, mais oui, Maryse, j'entends ce que vous dites, mais Patrick Lévivette, vous qui avez fait cette étude sur les invisibles, vous les baptisez vous-même les invisibles. Vous entendez Maryse qui dit mais c'est injuste de les appeler les invisibles, ils sont indispensables, ils sont essentiels.
Bien sûr. Patrick. Alors évidemment. Ça a été un débat sans fin à la Fondation. Simplement, dire et alerter, comme on le fait aujourd'hui, sur les invisibles, c'est bien parce qu'ils sont essentiels qu'on doit les reconnaître bien mieux. Et donc, c'est évidemment un choix qu'on a fait, parce que, d'abord, c'est un choix, on a voulu conserver ce qui était, à l'issue du Covid, la première étude, mais surtout, on a voulu dire qu'on ne peut pas continuer à vivre sans prendre en compte de façon spectaculaire, de façon beaucoup plus importante dans notre société, dans notre pacte social français, ce qui constitue aujourd'hui, au fond, le rouage essentiel de la société, ces hommes et ces femmes qui nous permettent, qui permettent aux autres de mieux vivre, d'accéder à la société moderne, de
consommation. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez alerter, c'est pas en appelant les indispensables, parce que les gens diront, bah oui, ils sont indispensables, vous avez raison. Si vous dites, ils sont devenus invisibles à cause de notre regard à nous tous, vous alertez peut-être plus efficacement. Sur ce registre, vous avez raison. Greg, je reprends notre éboueur avec qui on a commencé. Vous, éboueur, vous le dites vous-même, je me sens parfois invisible, c'est ça, invisible
ben oui.
Des institutions.
Au-delà d'être invisible, j'ai même l'impression qu'on nous refuse, le droit de se loger, le droit de se soigner et le droit presque de se nourrir, parce que c'est chaque mois une grande difficulté.
Enfin, si vous êtes éboueur, vous êtes salarié. Si vous êtes salarié, vous avez le droit de vous soigner, Greg.
Bien sûr. Mais si le salaire, ce qu'on a comme pathologie n'est pas couvert par la mutuelle et qu'on doit avancer les frais mais qu'on les a pas, et qu'à ce moment-là on doit se dire qu'est-ce que je fais ? Je mange ou je me soigne ? Je mange, je me soigne ou je me loge ? En fait, c'est un choix perpétuel.
Ça vous est arrivé d'être face à ce dilemme, je mange ou je me soigne ? Ça vous est arrivé à vous ?
La maladie, bien heureusement, non, mais certains collègues sont dans de très très grandes difficultés dans ce domaine.
Voilà.
Et quand vous êtes
Parce que,
quand Greg,
vu que c'est... les invisibles, on est dans tous les domaines. Bah, au niveau de la santé, ça se voit. Au niveau de la santé, dans tous les domaines auxquels on a affaire dans notre vie, et on sent que les invisibles, y a un souci avec eux cruellement.
Restez avec nous, Greg. Patrick Lévivette, je vous redonnerai la parole. Julien prendra la parole également tout à l'heure. Mon cher Julien, vous êtes là, Julien ?
Oui, bonjour Eric.
À tout de suite, Julien. Bonjour, à tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Eric Brunet sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jour J.
On dit d'elle qu'elle est l'application qui rembête nos enfants et nos adolescents. Ses utilisateurs sont scotchés sans voir le temps passer, devant des vidéos souvent sans intérêt. Mais cet algorithme peut aussi avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale des adolescents. Avalanche de vidéos d'automutilation, incitation au suicide, certains d'entre eux passent à l'acte. Le danger TikTok, c'est ce soir à 20h dans Jour J.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 184 €.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Thomas Cosse, boucher à Paris.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour, c'est Marie-Lorraine. J'habite Orléans, je suis aide à domicile et aide-soignante. Pendant le Covid, j'ai travaillé comme tout le monde, comme tous les personnels soignants, malheureusement ou heureusement. Mais effectivement, on a été applaudis. Mais franchement, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que c'était vraiment, vraiment utile ? Je ne sais pas. À bientôt.
Marie-Lorraine, qui vient de nous laisser ce message. Enzo qui est au standard. Bonjour mon cher Enzo.
Bonjour Eric et bonjour à tous. Beaucoup de réactions, tout à fait, sur beaucoup d'appels très pertinents aussi sur le sujet des travailleurs invisibles. Odette se souvient de la crise pendant le Covid et nous écrit sur Facebook. Bien sûr, il y a des travailleurs invisibles et pourtant indispensables. Le personnel des supermarchés, entre autres, ce n'était pas facile pour eux. Quand certaines personnes ne respectaient pas la distance de sécurité ou à la caisse, ils avaient le masque en dessous du nez. Dans quelques minutes, nous parlerons du sujet, du drame survenu à Châteauroux ce samedi 27 avril.
Eh oui.
Mathis, un adolescent de 15 ans, était poignardé à mort par un autre adolescent multirécidiviste et connu pour des faits de vol avec violence. Alors, découvrez-vous cet ultra-violent chez les jeunes et pensez-vous que ces ados récidivistes doivent être jugés comme des adultes ? C'est le moment d'appeler le 3210.
Ah, c'est un débat intéressant. Faut-il juger ces adolescents multirécidivistes comme des adultes? Oui, a priori non, il y a une justice pour les enfants et une justice pour les mineurs donc et pour les majeurs. Mais bon, on écoutera votre opinion tout à l'heure au 3210. Nous continuons sur ces 11 millions d'invisibles. Julien nous appelle, il a fait le 3210. Est-ce que vous êtes un invisible? Est-ce que vous estimez faire partie de cette catégorie de travailleurs français, Julien?
Voilà, tout d'abord bonjour. Et parlant d'invisible, je suis encore plus invisible que les invisibles.
Ah bon?
Mais oui.
Pourquoi dites-vous ça?
Parce que moi là où je suis gestionnaire de distributeur automatique, c'est-à-dire que je recharge, je nettoie, je désinfecte, etc. tous les distributeurs automatiques d'Île-de-France.
Oui.
Voilà. Et pendant le premier confinement jusqu'au dernier confinement qu'on a pu avoir, nous avons travaillé. Nous étions mandatés pour des missions telles que les EHPAD, les hôpitaux, les centres de distribution tels qu'Intermarché, etc., tous leurs grands dépôts. Voilà. On était dans les hôpitaux et les EHPAD, on était dans les services Covid, parce qu'ils étaient vraiment à l'écart des autres. Les autres appareils étaient éteints, mais dans les services Covid étaient allumés parce que tout ce qui était docteur, infirmière, etc. avait besoin de café pour tenir le choc. Donc nous, on était gantés, masqués, avec la charlotte, toute la panoplie, pour vous dire qu'on m'a souvent même arrêté pour me dire docteur, docteur, docteur. Voilà. Et on n'a pas été applaudis, on n'a pas été cités, nous n'avons pas eu de primes, nous n'avons rien eu.
C'est intéressant cette référence au Covid, parce que les 11 millions d'invisibles actuels, finalement. Alors vous dites je n'ai pas été applaudi, mais il y a beaucoup de moi par exemple, je me souviens, j'applaudissais en rentrant tard chez moi le soir les éboueurs qui travaillaient pendant le Covid, à un moment où nous avions collectivement tous un peu peur. Vous vous souvenez
oui,
au début,
bon, bon bah, je peux vous dire que j'avais la peur, on avait la peur au ventre hein, oui, quand on allait dans les services Covid. Hein. Mm. On voyait des choses qu'il fallait pas voir. Hein. Mm.
Patrick Lévivette, cette référence au Covid, elle est présente parce que ces métiers-là, pas tous, Julien nous dit, moi, ça n'a pas changé grand-chose, on me disait pas plus bonjour quand je rechargeais mes distributeurs pendant le Covid qu'après. Mais beaucoup de professions ont eu la considération du public et des Français pendant quelques mois, un an et demi, et puis après ça s'est émoussé. Moi-même, je dois vous dire que hier soir, j'ai pas applaudi les éboueurs quand je les ai croisés dans les rues, vous voyez.
Ouais. Ben moi non plus, mais c'est vrai qu'on oublie très très vite ce qui fait fonctionner notre société, les hommes et les femmes qui la font fonctionner au day-to-day. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est que c'est des horaires atypiques, le dimanche, le soir, le matin très tôt, hein, les femmes de ménage qui viennent avant qu'on se lève nous, pour que quand on arrive au bureau, on puisse travailler dans des lieux vraiment propres. Et puis, on voit bien que la fracture qui existe entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Au fond, il y a une fracture très importante. Il y a même, j'ai prévu, une inégalité de fond. C'est qu'aujourd'hui, on entend tous les jours, les entreprises se réorganisent, etc., pour permettre aux gens de télétravailler un jour, deux jours, ce télétravail plébiscité. Mais en fait, vous avez 30% des Français les plus modestes, qui sont déjà ceux qui ont le plus de difficultés à se loger, le plus de difficultés à se nourrir ou à avoir les moyens financiers de faire vivre leur famille. C'est encore ceux qui ont des plus de difficultés à se déplacer, en tout cas le temps le plus long. Et en plus, en fait, ils ne peuvent pas bénéficier de télétravail. Donc on voit bien que ce cumul, cette vie sous contrainte, elle vient percuter complètement la manière dont on raisonnait avant et la vie qu'on avait avant. Ce n'était pas comme ça il y a encore 20 ans. On n'avait pas les contraintes de déplacement, on n'avait pas les contraintes de logement, on n'avait pas les contraintes. Donc, elles se sont multipliées sur toute une catégorie de population, des hommes et des femmes, qui au fond font vivre les autres.
Mais au fond, Maryse, vous qui gérez une entreprise de service à la personne, ces invisibles, entre guillemets, vous les faites travailler, vous organisez presque leur emploi du temps, j'ai envie de dire, Maryse. Est-ce qu'on se trompe pas de combat? Est-ce que ces invisibles dont on parle, là, les manutentionnaires, les caristes, les aides à domicile, les aides-soignants, les aides ménagères, les techniciens de surface, les caissières, est-ce qu'ils ont besoin de considération ou est-ce qu'ils n'ont pas plutôt besoin de faire moins d'une heure pour aller sur leur lieu de travail, d'avoir un logement décent? Dans le sud-ouest, à côté de chez moi, là-bas, il y a un petit patelin qui s'appelle La Montjoie et le maire, il a obtenu la possibilité de faire des petits loyers pour les apprentis à 100 euros pour maintenir dans des petites communes rurales des apprentis qui travaillent chez le garagiste du coin, qui travaillent chez le boulanger du coin. Et grâce à cette initiative, financée par le Conseil Général, j'imagine, on parvient à garder localement des apprentis, ce qui est énorme. Donc c'est peut-être plus de ça, Maryse, dont on a besoin que de considération, non?
Alors, nous en fait, moi je suis en milieu rural, donc nous on a procédé différemment au niveau de travail. C'est-à-dire que les plannings en fait ne sont pas faits par les membres du bureau, mais par les intervenantes elles-mêmes justement pour qu'elles puissent s'organiser et être au plus près de leur domicile, au moins le matin et le soir. Oui. Après dans la journée effectivement elles vont un peu vadrouiller parce que nous sommes en milieu rural. Maintenant c'est aussi une question de commune et de gouvernement. Moi je suis déléguée de ma fédération qui est la FEDESAP. On n'arrête pas de se battre en fait pour tout ça. Le problème c'est qu'on est quasiment jamais écouté. On nous dit oui, bien sûr. Là, après le Covid, on nous a mis la journée nationale des aides à domicile qui a lieu tous les ans au 17 mars.
Oui.
Depuis deux ans. Mais qu'est-ce que ça fait? Il y a une journée nationale. Ok, on nous dit ils vont avoir des cartes professionnelles. On les attend toujours. Ça fait deux ans. Quand on demande ce qu'il va y avoir dedans, personne ne nous dit rien. Et en fait, c'est un tout, si vous voulez. Si les départements jouent le jeu, si les communes jouent le jeu, peut-être qu'on y arrivera. Mais aujourd'hui, personne ne joue le jeu.
Oui, voilà. Donc,
il est là le problème.
Non, mais c'est pour ça que je vous dis la considération, c'est bien gentil de la considération, mais la considération, c'est des revenus, c'est des horaires, c'est des logements plus faciles et c'est des temps de transport plus limités. La considération, après, c'est un mot conceptuel, c'est des applaudissements, mais j'ai envie de dire, ça nourrit pas son homme, ni sa femme. Restez avec nous, Maryse, et on revient dans une poignée de secondes.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,49€.
Les tomates anciennes?
Bon, comment vous avez deviné? En ce moment chez Lidl, le kilo de tomates anciennes est à 2,49€.
2,49€ le kilo de tomates anciennes? Mais ce prix, je vais le prendre en grippe.
Bah, c'est le vrai prix, patron, hein?
Oui, bah, allez, t'arrêtes, hein, parce que je vais me fâcher tout rouge.
Bah, tout rouge, oui, comme une tomate.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 2, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Vous écoutez, les auditeurs ont la parole. Lisa Marie vient d'entrer dans le studio.
On va faire un petit tour du côté du répondeur des auditeurs, Eric. La garde à vue de Gérard Depardieu vous fait réagir. Je vous rappelle que l'acteur est donc en garde à vue depuis ce matin pour agression sexuelle. Françoise, d'abord, a souhaité nous donner son avis.
Suite à la mise en garde à vue de Gérard Depardieu, un acteur que j'aime beaucoup, mais là je reste sans voix effectivement, et la question que je me pose, depuis le nombre d'années que ça durait, vous n'allez pas quand même me dire que personne n'était au courant? Donc on a fait l'impasse, et moi j'en voudrais beaucoup à toutes ces personnes-là.
Philippe a également laissé un message sur le cas Depardieu.
Bonjour RTL, je viens sur les ondes pour apporter quand même un soutien à notre Gérard Depardieu, car dans ces affaires-là, on ne sait pas qui est coupable, qui n'est pas coupable.
Et ben, la justice va justement statuer, comme il est mis en... Et comme il est en garde à vue, là.
Oui, entendu par les enquêteurs, et effectivement.
Il est effectivement présumé innocent, mais enfin, aujourd'hui, les enquêteurs sont en train d'enquêter précisément sur son cas. Nous en saurons davantage dans les prochaines heures.
Et on vous tiendra au courant sur RTL. Et puis, concernant notre sujet sur les travailleurs invisibles, Liliane a souhaité réagir et témoigner sur notre répondeur.
Je suis gardienne d'immeuble et je suis complètement invisible. Je gagne 1 300 € par mois. Je voudrais trouver un autre travail, mais pour ça, il faudrait que je quitte mon poste et que je trouve à me loger. Mais si je quitte mon poste, je n'aurai plus d'argent pour pouvoir me payer un loyer. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Voilà, et on est effectivement des invisibles.
Et vous continuez de réagir sur le répondeur des auditeurs et au 3210. Nos standardistes Margot, Cerise et Enzo attendent vos appels et vos messages.
Les invisibles, gardiens d'immeubles, tiens, je rajoute à ma liste, caissière, technicien de surface, aide ménagère, éboueur, infirmière, aide-soignant, institutrice, VTC, postier, aide à domicile, chauffeur-livreur, cariste, manutentionnaire. C'est ça les invisibles. 11 millions de personnes, de travailleurs en France qui gagnent 32% de moins que la moyenne nationale, qui sont pour deux tiers en horaire décalé, entre 900 et 2 000 € par mois, voilà, et qui sont beaucoup plus touchés par les autres, que les autres, par la crise de l'énergie, par exemple, parce qu'ils se déplacent beaucoup, les invisibles. Hein, ils utilisent leur voiture, alors quand il y a une augmentation du prix du carburant, ben c'est pour eux. Serge appelle 3210. Bonjour, mon cher Serge.
Oui, bonjour.
Où êtes-vous, mon cher Serge?
Dans le Pays Basque, à Bayonne.
À Bayonne. Je vous écoute. Est-ce que vous considérez être vous-même un invisible? Que faites-vous?
Je suis chauffeur de bus.
Chauffeur de bus.
Urbain.
Ouais. Vous voyez comme un invisible?
Oui, parce que bon, c'est vrai que les gens nous voient, montent dans les bus, disent bonjour, oui. Mais oui, je pense qu'ils me croient dans la rue, ils savent pas qui je suis.
Ouais.
Non.
Le confinement, ça a été pour vous un moment important?
Très compliqué.
Compliqué.
Très compliqué, oui. Oui, très compliqué, oui. Parce que on c'était volontariat, ceux qui voulaient travailler, tous avec les masques, bien sûr. Les gens montaient avec ou sans, ou les mettaient le masque, mais sur la bouche, mais pas sur le nez. Donc, il fallait sans arrêt regarder et la route et dans le miroir derrière. Et il fallait voilà, jouer aux policiers, quoi. On a eu quelques réflexions comme ça. Donc, il y a même eu un collègue à moi qui que je connaissais avant de travailler dans le transport en commun, qui a été battu à mort.
Mmh. Eh oui, on en a beaucoup parlé. Beaucoup, voilà. Beaucoup parlé. On en a beaucoup
C'était
parlé.
C'était un peu tu as ça.
Serge, combien j'ai le droit de vous demander combien vous gagnez tous les mois?
Voilà, le sujet qui fâche. 12,80 € par l'heure.
12,80 € par vous n'êtes pas tellement au-dessus du SMIC. Le SMIC, c'est combien? C'est 10 €.
Voilà. En sachant que je commence, ce matin, j'ai commencé à 6h15 et que je vais finir là à 14h, non-stop. Et que demain, je commence à 5h pour finir à 13h30.
D'accord, oui.
Exemple.
Patrick Lévivette, il est totalement dans la cible de ce qu'on appelle ces travailleurs modestes voire pauvres, voilà, et que vous appelez les invisibles et qui
horaire décalé.
Horaire décalé, ouais. Deux tiers des invisibles en horaire décalé.
Mais puisqu'on parle de ces horaires décalés, moi je voudrais faire une alerte, Eric, sur un point qui est très frappant. C'est quand on a fait l'étude, on a regardé, on a croisé dans tous les sens, et en fait on s'est rendu compte d'un phénomène de société qu'on n'a pas du tout, dont personne parle ou très peu, comme ça, comme si c'était un événement. Un quart des familles françaises aujourd'hui sont des familles monoparentales. Et 82% sont des femmes à charge d'enfants, seules avec des enfants. 73% de ces femmes seules avec enfants font partie des invisibles.
Ah, donc, ça c'est 73%. Donc la catégorie famille monoparentale avec femmes est surreprésentée dans votre tableau des invisibles.
Exactement. Et ça dit quoi?
Très intéressant.
Ça dit d'abord qu'on est en train, quand on parle d'égalité homme-femme, certes aujourd'hui il faut continuer le combat pour l'égalité des salaires, mais on est en train de créer une fracture, en tout cas de vivre une fracture dans la société qui va être considérable dans les années qui viennent. Et pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, le pacte social qui a été fait après, on parle toujours du Conseil national de la résistance, ce pacte social français, ce modèle social français, en fait, il correspond plus au réel, il correspond plus à la réalité. La fracture territoriale, les auditeurs le disent, ils habitent une petite ville, un petit village, il faut prendre la voiture et on est à distance du travail. Donc, en fait, cette fracture territoriale, plus la fracture sociétale, famille monoparentale, fracture du logement, de capacité à se loger, sont des modèles qui n'existaient pas quand on a créé le modèle social. Donc c'est normal, on rajoute des couches d'aide et de soutien, on n'en voit même pas la couleur, et on ne répond pas à la problématique de fond.
Passionnant. Céline est avec nous. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bonjour, où êtes-vous ma chère Céline?
Moi je suis en Charente-Maritime, dans le Saujon, à Saujon.
À Saujon. Vous êtes une invisible?
Oui, je suis une auxiliaire de vie à domicile.
Vous vous considérez comme une invisible?
Oui, en grande partie.
Pour quelle raison, Céline?
Parce que on voit énormément de gens toute la journée. Alors, pour la plupart des personnes, on est les seules personnes qu'elles voient dans la journée, parce que la plupart, ce sont des personnes âgées. Et alors, il y en a qui sont très reconnaissantes, et puis alors d'autres, pas du tout, quoi.
Oui. Mais c'est surtout la question des invisibles, c'est surtout la société. C'est surtout que les gens qui montent dans le bus ou que les gens que vous allez consulter soient gentils avec vous, oui, c'est la moindre des choses. Mais le sujet, c'est la société, vos employeurs, ceux qui vous logent, etc. Il est là, le problème, davantage. Céline, restez avec nous, tout de suite.
Jusqu'à 14h30, Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Aujourd'hui, tous les auditeurs qui passent à l'antenne remportent L'heure des femmes d'Adèle Bréau au livre de poche. Plongé dans le Paris des années 60, Ouméni devient l'icône de la radio RTL en révélant les secrets enfouis des auditrices. Découvrez une histoire captivante où la solidarité féminine éclate au grand jour.
RTL.
On en parle. Les acteurs de la filière bovine s'engagent au quotidien pour vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle avec Thomas, boucher à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous proposez à vos clients du bœuf exclusivement produit sur notre territoire. Pourquoi ?
Eh bien, parce que la viande bovine offre une grande variété gustative grâce à la richesse de nos régions et de nos terroirs.
Eh oui.
Vous connaissez la charolaise ou la limousine ?
Oui, bien sûr.
Bah, en réalité, il y a une quinzaine de races à viande.
D'accord.
On les reconnaît grâce à leur robe, mais surtout grâce à leur grain de viande.
Ah oui ? Et ce sont les seules différences avec le bœuf étranger ?
Non, il y en a plein d'autres. Mais c'est surtout nos normes sanitaires qui sont parmi les plus rigoureuses.
J'imagine. Donc pour vous, vous approvisionnez auprès de nos éleveurs, c'est une évidence.
Oui. Je sais que la viande que j'offre à mes clients n'a pas fait le tour du monde.
Oui.
Et puis je contribue à mon niveau à pérenniser ce beau métier d'éleveur et à soutenir une filière bovine engagée qui génère des emplois dans nos territoires.
Ça c'est très bien. Merci Thomas.
On en parle. Consultez nos sources d'informations sur interbef.fr, rubrique enjeux sociétaux.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Oui, bonjour, c'est Thomas, j'appelle des Pyrénées-Atlantiques. Je voulais réagir sur l'émission Les Invisibles. Alors moi, je fais partie de cette catégorie de très invisibles, alors pas forcément que pendant la période Covid, mais également tout au long de l'année, puisque je suis assistant familial, famille d'accueil.
Voilà, Thomas qui vient de nous laisser ce message. Céline, à l'instant d'ailleurs, mon invité Patrick Lévivetz de la Fondation Travailler Autrement, qui a fait cette étude là sur les invisibles, me disait, Céline, faudrait lui demander si elle est payée à l'acte, vous qui êtes auxiliaire de vie.
Non, parce que je fais partie d'une association d'aide à domicile. Voilà.
D'accord.
Donc moi j'ai un fixe tous les mois, mais on est sur des heures lycées, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir 30% de plus ou 30% de moins en temps de travail, mais on sera pas payé en heures supplémentaires en fait.
Ah d'accord, ouais. Transport, vous faites beaucoup de transport ?
Oui. Alors je fais beaucoup de voitures parce que forcément je suis dans un milieu rural, donc c'est de la campagne. Hein.
Quand le prix du carburant il augmente, vous êtes directement touché.
Oui, parce que nous, on doit faire l'avance de l'essence, enfin nos pleins d'essence. Après, on est remboursé 18 centimes du kilomètre parce qu'on a des voitures de service.
D'accord, ouais. Logement ?
Logement, j'ai la chance d'avoir une maison familiale, donc ouais. D'être dans une maison de famille, donc voilà.
Ouais. Et vous considérez que depuis le Covid, finalement, après avoir été passablement applaudi par les Français et Françaises, votre vie n'a pas tellement changé.
Non, alors en plus, pendant le Covid, franchement, moi j'avais plus l'impression qu'ils applaudissaient les infirmières plutôt que les auxiliaires de vie, enfin du moins les aides à domicile. Parce que personnellement, à ce jour, j'ai vu aucun applaudissement. Hein.
Merci, restez avec nous, hein, Céline.
Juste pour une petite information, je me retrouve exactement dans le profil que votre invité vient de faire, parce que je suis mère célibataire avec un enfant.
Eh ben voilà. Eh ben voilà, on y est. Les familles monoparentales surreprésentées dans cette catégorie des invisibles.
Ouais. Et
oui. Quand vous avez un enfant, qu'il est à l'école, que vous avez une contrainte parce qu'il y a eu un embouteillage, ou parce que vous étiez chez une mamie qui avait pris plus de temps, vous n'avez pas la possibilité à ce moment-là, s'il y a quoi que ce soit, d'aller chercher votre enfant. Vous êtes sous stress. Vous essayez de trouver le système D. Et c'est ça. La France aujourd'hui qui hurle ou qui râle ou en tout cas qui envoie un message fort.
Oui.
Fort.
Je pense aux gilets jaunes là. Bon, pardon de revenir sur cet épisode, mais est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ces invisibles qu'on entend tout à l'heure, qui sont dans des professions très différentes, mais qui ont quand même des points communs, on vient de le voir, et puis un mouvement de protestation nationale qui pourrait naître dans les prochains mois, par exemple.
Oui, parce que Eric, vous voyez bien, notre modèle social, il est construit sur des partenaires sociaux qui travaillent sur des sujets qui sont dans l'entreprise. Mais c'est-à-dire les conditions de travail, ça s'améliore, ça s'améliore pas. Enfin, il y a au moins des acteurs qui s'en chargent. Mais tous les sujets dont on parle, qui sont bien des sujets liés au travail, le transport, le logement, tout ça s'invite dans la vie de l'entreprise. Qui s'en occupe ? Qui travaille de façon complète sur ces sujets entre l'entreprise ? Non, s'en occupe pas.
Ah oui.
Peu. Les grandes entreprises peuvent, mais les petites non. Et donc, en fait, si vous reproblématisez pas, si vous dites pas, OK, on prend les problèmes d'aujourd'hui, comment on les résout ? Hein, on repart de zéro. Comment on les résout? On n'y arrivera pas, puisque ouais. chacun est dans son couloir.
Les partenaires sociaux, les syndicats s'occupent rarement du logement.
C'est normal. Mais c'est normal. Ouais. Et donc, il faut bien reprendre cette question à la source et à la base. La fracture territoriale, il ne faut pas l'oublier. Oui, les gilets jaunes, c'est une alerte très claire sur ce que sera la France de la colère si on n'est pas capable d'apporter des réponses. La reconnaissance en étant, moi je crois que c'est très important, mais je crois que si on ne prend pas ces problématiques, ces cumuls de contraintes de vie, alors
logement,
on aura...
Logement, transport, carburant, famille monoparentale, complexité pour gérer les sujets familiaux, la famille, les enfants, etc. C'est là qu'on voit que, quand on est dans un invisible, la situation peut rouler. Bon, ça roule, ok, ça marche, on a un salaire bas, mais on s'en sort. Mais quand il y a un grain de sable, on est beaucoup plus touché et impacté qu'un autre, parce qu'on est famille monoparentale, sur une route de crête très légère au niveau salarié, au niveau salaire, que ça peut partir dans le rouge à tout moment. Effectivement, on est plus fragile. Dany a fait le 32-10. Bonjour Dany.
Bonjour Eric, bonjour à votre invité.
Vous êtes, que faites-vous mon cher Dany dans la vie?
Alors moi je suis conducteur routier.
D'accord. Et vous avez un peu la... Comment expliquer les choses? Vous avez un peu la gueule de bois dans ces années qui suivent le Covid, hein, où on avait promis beaucoup de choses et on a le sentiment de se réveiller un peu comme si rien n'avait changé.
Le problème, c'est que nous, pendant le Covid, on a fait notre métier. On a un métier, c'est de transporter de la marchandise. On l'a fait au risque de choper le Covid, parce qu'on allait partout en France. On nous a dit, c'est bien les gars, vous bossez. On a fait des heures, même pire que maintenant. On a dépassé nos quotas d'heures. On roulait les jours fériés, qu'on n'a pas le droit normalement. On roulait le dimanche, qu'on n'a pas le droit normalement. Pourquoi? Pour rien. On touche 1600 euros par mois pour 210 heures de travail. Parce qu'un routier, si vous écoutez tout le monde, oui, il gagne bien sa vie, mais... Il ne faut pas oublier qu'en salaire, on n'est qu'à 1600, voire 1800 euros. Certes, on a les frais de route, mais les frais de route ne font pas partie du salaire.
Ouais, et vous êtes bien au-delà, du 35 heures hebdomadaires classique.
on est à 56 heures par semaine. Je suis à plus de 210 heures par mois. Et ça, c'est pas moi, hein, c'est tout le monde. Hein. La plupart des routiers, on fait 230 à 240 heures par mois. Sur tout le long de l'année. Et on gagne 1600 euros.
Merci Dany de votre appel. Je voulais pas faire une émission particulièrement militante avec un message à la clé, une conclusion. Patrick Lévivette, je suis content que vous soyez venu nous voir pour parler de votre rapport, de votre étude, de la Fondation Travailler Autrement. Mais le seul fait d'avoir peut-être un peu alerté les politiques qui écoutent RTL à midi, il y en a beaucoup, hein, de chefs de cabinet, des gens qui travaillent avec les ministres. C'est bien d'avoir alerté, comme vous l'avez fait vous-même à travers votre étude, sur ces 11 millions de travailleurs français qui ne sont pas tous salariés, qui ont tous des métiers très différents les uns des autres, mais qui sont ceux qu'on a appelés les essentiels et les indispensables pendant le Covid. Absolument. Et que maintenant, on a rebaptisé les invisibles parce qu'on les regarde plus. On les voit
Absolument.
Plus.
Absolument.
Merci d'être venu nous
Merci
voir.
Merci à vous.
Merci Patrick Lévivette de la Fondation Travailler Autrement. Dans une poignée de secondes, mesdames, messieurs, un tout autre thème. Nous allons aller à Châteauroux. L'auteur, vous savez, cet adolescent qui est l'auteur présumé qui a poignardé, n'est-ce pas, et tué un jeune adolescent de 15 ans, eh bien, on va s'attarder sur ce thème, si vous voulez bien, parce que l'auteur des faits avait déjà été mis en examen pour des vols avec violence, et j'aimerais qu'on parle ensemble de votre opinion sur ces adolescents ultra-violents, récidivistes. La question que beaucoup se posent, c'est faut-il juger ces adolescents ultra-violents et récidivistes comme des personnes majeures? Voilà, 3210, je vous attends, à tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La Côte d'Or, au cœur de la Bourgogne. C'est la première destination nature et patrimoine entre Paris, Lyon et Strasbourg. Des sites inscrits à l'UNESCO, des plus beaux villages de France, le parc national de forêt, le parc du Morvan, des itinéraires gourmands, dont la célèbre route des Grands Crus. Tout commence sur lacotedorjadore.com.
Chaque matin à 8h50.
Oui, c'est Jackie Chasseur. Oui. Ça veut dire quoi, journée mondiale de la Terre? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait attention, on appuie sur le petit bouton de la chasse d'eau pour le pipi, puis sur le gros bouton pour la grosse commission, la journée de la Terre. Et que les 364 autres jours de l'année, on appuie sur le gros bouton, même pour un petit pipi. Non, on perd la tête, hein.
Retrouvez le sourire avec Laurent Gérard.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Les auditeurs ont la parole, Lisa Marie, nous allons parler maintenant au 3210 de cet adolescent et de sa mère entendu par la police à Châteauroux dans l'Indre après la mort d'un jeune de 15 ans poignardé ce week-end.
Oui, samedi, Mathis, 15 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau dans le quartier de Saint-Denis à Châteauroux. Le suspect a été rapidement interpellé. C'est lui aussi un jeune de 15 ans, comme la victime. Il est afghan, situation régulière, actuellement toujours en garde à vue. Un jeune déjà connu des services de police pour des faits de vol aggravé avec violence. Il avait déjà été placé sous contrôle judiciaire le 22 avril dernier. Sa mère aussi est en garde à vue, vous le disiez. Alors on ne sait pas encore ce qui s'est passé exactement, mais selon les premiers éléments de l'enquête, ce serait peut-être une bagarre sous fond d'insultes et de moqueries qui a donc coûté la vie à Mathis, 15 ans.
On va prendre au 3210, mes chers amis, Patrice qui m'appelle. Bonjour mon cher Patrice.
Bonjour Eric.
Où êtes-vous exactement, Patrice ?
Eh bien, à Châteauroux, dans le département de l'Indre.
Ah, vous êtes à Châteauroux. J'imagine que ça a dû beaucoup ébranler ces dernières heures, la population castelroussine, là. Hein.
Oui, surtout, vu comment ça s'est passé, surtout que ce fameux jeune homme, on va dire comme ça, a déjà eu un problème, c'est la semaine dernière, il avait convoqué un autre garçon sur les réseaux sociaux, ils étaient trois ou quatre et il a dû faire un tabassage en règle, mais comme par hasard il a recommencé la semaine d'après, mais là il a été au meurtre.
On dit défavorablement connu des services de police, Patrice.
Oui. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que ce monsieur, enfin ce jeune homme, il est passé, si je me trompe pas, dans les mains de la police. Il a dû être présenté ou au procureur ou à un juge. Parce qu'un tabassage en règle à plusieurs, ça s'appelle truc en réunion, si je me trompe pas. Et par contre, comment ça se fait qu'il est encore dehors, ce monsieur ? Et justement, il fait un meurtre maintenant. Il y a quand même un problème. À Châteauroux, la police, on a divisé par deux. Alors, les policiers, ils sont pour rien. Moi, au contraire, je suis pas anti-police. Au contraire, je suis pro-police. Hein ? Mais la police, nous, ça a été divisé par deux. Donc, je crois que sur 200 policiers, il y en a plus que la moitié. Donc, s'il s'était passé quelque chose, monsieur Darmanin, si je me trompe pas, il est venu à Châteauroux. Et il a rajouté 16 policiers en plus. Mais le compte n'y est toujours pas. Alors sous prétexte qu'aujourd'hui, on a la police municipale. Mais la police municipale, elle est limitée dans ses procédures. Parce que quand ils arrêtent quelqu'un, il faut forcément les emmener à la police nationale. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Notre justice, elle est défaillante.
Qu'est-ce qui ne va pas ? Le débat qui est évoqué depuis quelques heures est le suivant. Faut-il juger ces mineurs ultra-récidivistes comme des personnes majeures ? Ça me semble, honnêtement, faut pas dire n'importe quoi, ça me semble difficile d'appliquer à une personne, à un jeune homme de 15 ans ou à une jeune femme de 15 ans, la même justice qu'à un majeur, Patrice.
Au bout du compte, il y a quoi ? Il y a quand même un mort. Attendez, faut ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire comme si un jeune adulte, parce qu'on va dire un jeune adulte, faut le ménager. Par contre, lui, il ménage pas. Là, c'était un autre adolescent du même âge que lui, mais ça aurait été un adulte, il leur en aurait fait exactement pareil. Pourquoi ces gens-là, ces jeunes-là qui foutent le bazar, parce qu'ils mettent le bazar, ils font ce qu'ils veulent, c'est la loi de la jungle, moi je suis désolé de vous le dire, mais d'ailleurs les gens, je crois qu'ils en ont un peu ras la casquette.
Dites Châteauroux, c'est quand même une ville moyenne, c'est pas une super mégalopole. Honnêtement, vous avez observé une montée de la violence, je parle pas des incivilités, hein. Là je parle vraiment des violences de cette nature-là.
Ben bien sûr, regardez, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un an ou deux ans, il y a un autre jeune homme qui a été tué en plein centre-ville de Châteauroux, place de la République. Mmh. Il a été tabassé en règle, à coup de savate et tout. Personne n'en a parlé. Mmh. Attendez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Arrive à un moment, moi je suis désolé, on est soi-disant dans un pays de droit, mais le droit, il est pour qui ? Mmh. Il est pour nous ou il est pour les gens qui s'amusent à faire tout et n'importe quoi et à surtout ne pas respecter la loi ?
Bougez pas, Patrice, j'ai pas mal d'appels. Là, j'aimerais prendre maintenant Denis, qui est avec nous, qui a fait le 3210. Bonjour, mon cher Denis.
Oui, bonjour.
Qui est Denis ?
Alors, moi, je suis un ancien major pénitentiaire. J'ai travaillé plus de 33 ans dans l'administration pénitentiaire et j'ai passé par de nombreux établissements, dont Fleury-Mérogis.
Alors, dans des établissements, dans des centres pénitentiaires classiques, on n'écroue pas des jeunes de 15-16 ans ?
Alors, en dernier, j'ai travaillé sur la prison d'Épinal et effectivement, quand je faisais des écrous, il était rare d'avoir des jeunes mineurs qui étaient écroués. On avait un quartier qui était surdimensionné par rapport au nombre de détenus qui étaient écroués. Donc, on avait rarement des jeunes en dessous de 16 ans, il n'y en avait jamais. Et puis, entre 16 et 18, ils étaient que quelques-uns, quoi, en fait.
Oui. J'imagine que pour être écroué entre 16 et 18, il fallait avoir fait des choses très graves. Hein.
J'ai une anecdote, justement. C'est lors d'un écrou, il y avait un jeune mineur qui est arrivé avec trois pages dactylographiées de délits qu'il avait commis avant de passer par la case prison. Quoi.
Oui, d'accord. Il avait trois pages, lui. Trois pages.
Voilà. Ouais. Donc,
votre expérience de major pénitentiaire, elle nous dit quoi par rapport à l'incarcération? Imaginons par exemple que ce jeune homme de 15 ans qui serait responsable de la mort d'une autre personne de 15 ans aille en prison. Qu'est-ce que vous diriez de cela? C'est une bonne chose ou vous diriez au contraire
Pour moi, c'est une défaillance de la société, mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut soit les structures administratives, il faut les renforcer et proposer des alternatives avant d'en arriver là. Je pense que tout ce qui est protection judiciaire de la jeunesse et toutes les structures qui accueillent des jeunes qui sont en difficulté ne sont pas adaptées parce qu'il n'y a pas de personnel nulle part. Que ce soit dans les prisons, il n'y a plus assez de surveillants, que ce soit au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse, il n'y a pas assez d'éducateurs pour encadrer ces jeunes. Donc systématiquement, les jeunes, ils restent dehors, ils ne sont pas pris en charge et on se retrouve avec des individus qui commettent des crimes. Mmh.
Jean-Alphonse Richard est en train de s'installer. Jean-Alphonse, qui va nous parler du programme de l'heure du crime à 14h30. Mais avant, sur ce sujet, qui sont les adolescents, ce débat, faut-il que la justice des adultes se plaque sur celle des mineurs quand on est sur des cas aussi durs, violents, radicaux que celui de Châteauroux?
Le problème aujourd'hui, c'est la multiplicité de ces cas. C'est de plus en plus difficile à gérer. On sent bien que l'âge légal, j'ai envie de dire pénal, n'est pas en adéquation avec le phénomène de société qui se produit. Il y a des violences qui sont de plus en plus manifestes et de plus en plus brutales et qui pourraient être attribuées à des adultes et qui là concernent effectivement des mineurs. Donc il y a véritablement un problème intrinsèque dans la loi qui existe et qu'il va falloir sans doute réviser. Bon, c'est la majorité pénale, comme on dit. C'est très compliqué comme sujet, parce que c'est de toute façon du cas par cas, et la justice doit faire du cas par cas. Donc il ne faut pas trop jeter non plus la pierre aux juges. Ils appliquent la loi, et s'ils ne l'appliquaient pas, ils seraient hors la loi.
Mais la loi permet quand même de mettre derrière les barreaux une personne de 16 ans.
Oui, bien sûr. La loi le permet. La loi le permet, dans certaines conditions, et avec un certain encadrement, la loi le permet. Mais encore une fois, il faut examiner de près les dossiers, c'est du cas par cas, et il faudra un jour ou l'autre, effectivement, se pencher sur l'efficacité même de la loi. Parce qu'on voit, encore une fois, c'est ça, la gradation des violences, elle a évolué de manière spectaculaire. Mmh. Et on n'était pas habitué à ça, ne serait-ce qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années.
Mesdames, Messieurs, on vous pose la question après Châteauroux. Faut-il faire évoluer la loi et faut-il juger ces délinquants ultra-violents, récidivistes, mineurs, comme des majeurs? Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux trouvent que l'idée serait bonne. Je ne suis pas convaincu, les amis. Mais j'attends vos opinions, votre opinion sur le sujet. On en parle après 14h au 3210. De quoi?
Et j'ajoute que c'est souvent le cas aux États-Unis, par exemple, où la loi est égale, que vous soyez mineur ou majeur, selon les États, c'est spectaculaire. Même. Donc voilà.
Ah, vous avez 15 ans et demi, vous.
Selon les États.
Selon les États, à 15 ans et demi, vous prenez autant qu'une personne de 30
ans. Absolument. Avec des peines qui sont très lourdes. Et, voilà, on en pense ce qu'on veut, mais ça peut exister.
14h30, l'heure du crime, de quoi parlons-nous, Jean-Alphonse Richard?
Alors écoutez, je vous emmène dans un village tranquille de Seine-et-Marne, Bailly, Romainvilliers, à l'hiver 2018. On découvre le corps de Joséphine Bernard, elle a 28 ans, elle est employée à Disneyland, qui est tout proche. C'est un suicide, les policiers sont formels, alors là, il n'y a aucun doute, c'est vraiment un suicide, elle s'est pendue. Les parents de Joséphine, c'est souvent le cas, vous savez, les parents ne peuvent pas imaginer que leur enfant se soit suicidé, ils n'y croient pas, ils vont porter eux-mêmes l'enquête. Et c'est aujourd'hui pour meurtre, figurez-vous, que le dossier est rouvert, parce que bien des mystères sont apparus. Il y a un petit ami, on ne sait pas trop ce qu'il a fabriqué dans cette histoire. Il y a des personnes qui voulaient du mal à cette jeune femme et des téléphones qui ont été vidés de tous leurs messages. Vous voyez, donc ça constitue quand même,
ah oui,
c'est un ensemble de soupçons qui est important. Le suicide, vraiment pas sûr du tout. Le meurtre, c'est tout à fait possible. C'est l'heure du crime, 14h30, avec aujourd'hui donc le dossier Joséphine Bernard. A tout de suite.
A tout de suite, 32-10. Nous, on se retrouve dans un instant sur Châteauroux après la mort d'un jeune de 15 ans poignardé ce week-end.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage.